Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Judard, le 14 novembre 89.
Ousia, qui est essentiellement indétermination. Tiens, c'est curieux. Peut-elle être source de toutes les déterminations? C'est parce que précisément elle est source de toutes les déterminations. Alors, n'a-t-elle pas tout de même quelque chose de déterminé? Mais je comprends. De caractéristique. Le fait d'être elle-même source de toutes les déterminations. D'accord. Il ne faut pas confondre l'ousia principe et l'ousia sujet. Ce que je vous ai dit, que la scolastique avait fait la confusion. La scolastique décadente, à partir de d'Occam, je crois, on était revenu au prédicament, et l'ousia, substance première, était confondue avec l'ousia, principe. Un principe, sauf si on dit un principe matériel. Mais si on ne précise pas, un principe implique quelque chose d'indivisible. Et donc, est nécessairement déterminé. Et l'ousia est plus que la détermination, puisqu'elle est principe d'être. Et elle nous manifeste que l'être, justement, se manifeste en premier lieu dans une détermination. Et le lien entre la forme et l'être, c'est quand même très important, ça. Le lien entre la forme et l'être. Point de vue philosophique, hein, je reviens là-dessus, parce que c'est des choses sur lesquelles il faut beaucoup penser et beaucoup réfléchir. La première distinction, c'est forme-matière. Et cette distinction se fait à partir de l'œuvre d'art. La matière se distingue, la forme se distingue de la matière. Ceci divise le mouvement, ce qui est mu. Quel est le rapport entre forme et ce qui est ? Ce qui est regarde aussi la matière, que la matière existe. Donc vous voyez, je ne peux pas identifier forme et ce qui est. Autrement, la matière serait du non-être. Ça, c'est facile à comprendre, je crois. Mais tout simplement ça. Vous voyez tout de suite qu'il faut dépasser, que l'être dépasse la forme. La forme, c'est une modalité de l'être. C'est la première modalité de l'être. Tandis que la matière, c'est une modalité de l'être secondaire. Tandis que celle-ci est première. Et c'est pour ça que lorsqu'on découvre l'ousia, on dit principe selon la forme de ce qui est. On éprouve le besoin de dire le principe selon la forme, le principe dans l'ordre des déterminations, comme un au-delà de toutes les déterminations, et comme une source de ces déterminations. Oui. Donc elle est plus que la forme, c'est pour ça qu'elle peut être source de toutes les formes. Elle n'est pas forme, contrairement à ce que dit Tricot. Hein. Quand vous voyez Tricot qui traduit Aristote, il dit que l'ousia, c'est la forme. C'est pas juste. Ça, c'est Gilson qui a mis ça dans l'idée de tous les aristotéliciens, en disant que la métaphysique d'Aristote était une ousiologie. C'est pas vrai, puisque la substance est principe selon la forme de ce qui est. Et qu'il y a un autre principe dans l'ordre de l'être, C'est le principe qui est fin. Et la fin n'est pas l'ousia. Je crois que vous arriverez à piger ça petit à petit. Hein. C'est très important. C'est pas commode. Hein. Parce que là, toute la scolastique a confondu. Et tous les bons thomistes gilsoniens continuent de confondre. C'est un peu terrible, parce que c'est le point de vue de la finalité qui n'est plus alors vu du point de vue de l'être. Donc, voyez ça, j'espère que maintenant vous voyez bien comment l'ousia n'est pas le sujet, puisqu'elle est principe selon la forme de ce qui est. Donc, elle est éminemment déterminée. Éminemment déterminée. Au-delà de la forme qui est la détermination que nous voyons tout de suite, la qualité. Oui, la qualité est forme, mais l'ousia est plus que la forme. Puisqu'elle est principe selon la forme de ce qui est. Alors ceci nous permet de rejoindre ce que j'avais dit la dernière fois. L'interrogation du tiesti. Très curieux. Que cette interrogation, Aristote la met pour découvrir ce qu'est l'ousia. Et Aristote reprend cette interrogation pour découvrir to telos. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et nous partons de cette interrogation, ne l'oubliez jamais, à partir du jugement d'existence. Le jugement d'existence est à la fois source de la découverte de l'ousia, et le jugement d'existence est source de la découverte de l'être en acte. C'est très important de bien saisir ça. Et j'allais dire qu'au fond, l'être en acte est plus immédiatement relié à l'être, comprenez bien, que la forme. C'est sûr. La fin est plus immédiatement reliée à l'être que la forme. Très curieuse. C'est important pour notre manière de penser. La forme est dépassée par l'être. La fin n'est pas dépassée par l'être. Que l'être en acte est fin. Et je ne dis pas que l'être en acte est principe selon la fin. Et voyez pourquoi, j'espère. Voyez pourquoi. C'est un petit peu de critique qu'on fait là. Hein. Comprenez bien, c'est une réflexion critique sur les deux grands axes de la métaphysique, l'ousia et l'être en acte. Voyez pourquoi. C'est que, au point de vue génétique, il faut toujours se rappeler ça, l'aspect génétique est très très important. Au point de vue philosophique, hein, l'ordre génétique. Selon l'ordre génétique, je reprends ça constamment pour que vous arriviez petit à petit à cette gymnastique métaphysique, l'ordre génétique, l'ordre de nature, qui n'existe pas en mathématiques, qui n'existe pas dans les sciences modernes. C'est propre à la métaphysique, à la philosophie. Parce que c'est ça qui est commandé par la connaissance analogique. Quand vous avez une connaissance univoque, vous ne pouvez pas distinguer les deux. Selon l'ordre génétique, la première division, c'est celle-ci. La première division de ce qui est mu. Forme, matière. Donc, j'allais dire, ça colle à notre peau, ça. À la peau de notre intelligence. Hein. Métaphoriquement. C'est-à-dire le substrat fondamental de l'intelligence. L'intelligence est liée au sens dans son exercice. Et parce qu'elle est liée au sens, la première chose que notre intelligence touche, c'est ce qui est mu. Et sa réaction première, c'est de découvrir la division forme-matière, détermination-indétermination. Bon, ça, je crois que vous arrivez petit à petit à le saisir. Et on peut le saisir vite. Il faut y revenir tout le temps. Donc, c'est cela qui conditionne tout l'ordre de notre connaissance. On est conditionné par cette distinction forme-matière. Oui, c'est pour ça que ça se retrouve tout le temps dans la théologie de saint Thomas. Ça se retrouve tout le temps, même dans les sacrements. Et oui, bien, pourquoi? Parce que les sacrements, c'est une œuvre artistique de l'Esprit Saint. C'est vrai, c'est une œuvre artistique, ça, quoi. Ça ne se promène pas tout seul. C'est signe et instrument. Donc c'est une œuvre artistique, c'est un outil. C'est un outil de l'Esprit Saint, les sacrements. Ouais. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait commencer à des jeunes, commencer à le traiter des sacrements, montrant les outils du Saint-Esprit. Allez. Alors à ce moment-là, ils commencent à comprendre les outils du Saint-Esprit. Et c'est vrai, c'est les outils du Saint-Esprit. De l'armée divine a des outils particuliers. Et puis il y a le laboratoire aux outils. Là, vous avez les sept outils du Saint-Esprit. Et la forme, la distinction des sacrements, forme-matière. Tout de suite. Parce que c'est génétique. L'ordre génétique premier de ce qui est mu. Toute œuvre d'art. Tandis que la fin. À quel moment, selon l'ordre génétique, découvrez-vous la fin? Selon l'ordre génétique, vous découvrez la fin dans l'œuvre. Finis effectus, selon la bonne scolastique. L'œuvre est fin et effet. Vous voyez que la fin n'est pas saisie séparément. Elle est saisie à l'intérieur de l'œuvre. Dans l'œuvre, je saisis la fin. Or, l'œuvre est premièrement forme. C'est donc par la forme que je saisis la fin, génétiquement. Je dépasserai l'aspect de la détermination et je découvrirai la fin, mais à travers l'œuvre, donc à travers la génétiquement, je ne peux pas saisir la fin sans saisir la détermination. Mais la fin apparaît tout de suite comme quelque chose d'ultime. Selon l'ordre de perfection, la fin est première. Génétiquement, la fin apparaît liée à la forme. Et je m'aperçois que dans l'ordre de la recherche, au point de vue éthique, la finalité m'est tout de suite donnée à travers cette soif du bonheur. Toute l'éthique commence par la finalité et non pas par la forme. C'est très important de comprendre ça. L'expérience de l'amour d'amitié qui est fin. L'ami est découvert comme mon bien, comme ma fin. Donc dans l'ordre éthique, dans l'ordre de l'adgérer, la fin est tout de suite première. Et à partir de la fin, je découvre les moyens, l'efficience. Première distinction qui sera au niveau éthique, sur l'ordre dans les c'est fin et moyen. L'interrogation du Tiesti, qu'est-ce que c'est que l'activité humaine. Qu'est-ce que c'est que l'activité ? C'est une activité finalisée. C'est une activité volontaire, donc finalisée. Qu'est-ce que c'est qu'une activité morale ? Oui, le tiesti. Et au tiesti découle la découverte de la fin, le bonheur. L'amour d'amitié. Donc la fin est donnée, elle est première génétiquement du côté éthique. Elle est ultime du côté du facere. Elle est première du côté éthique. Dans l'ordre de perfection, la fin est première. Pourquoi ? Parce que du côté perfection, on touche tout de suite ce qui est ultime et parfait. Or, la forme n'est jamais ultime. Dans l'ordre même pratique, c'est pas réaliser une œuvre qui finalise l'homme, qui est le bonheur de l'homme. Réaliser une œuvre, très bien, c'est excellent, mais c'est pas ça qui lui donne la vie éternelle. Au point de vue chrétien. Et au point de vue humain, c'est pas ça qui lui donne le bonheur. Dans l'adjéré, la fin, c'est la découverte. Dans la fin, c'est la découverte du bonheur, l'amour d'amitié, en premier lieu. Et donc, dans l'ordre de perfection, la fin est première. Et c'est pour ça que la recherche de l'être en acte, c'est la recherche de la cause, la fin de ce qui est, la cause ultime, la fin. Et on ne dit pas principe selon la fin. Parce que la fin est toujours quelque chose de premier dans l'ordre de la perfection. Et donc, puisqu'il est premier dans l'ordre de la perfection, il est ce qui est découvert immédiatement dans l'être. C'est pour ça que c'est le pourquoi par excellence. Donc dans le tiesti, il y a la découverte de l'ousia et il y a la découverte de la fin. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est premièrement fin. Être en acte. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il est fondamentalement ousia. Alors vous allez dire, mais pourquoi on commence pas la métaphysique par la découverte de l'être en acte ? Oui, parce que toujours, on a toujours un ordre génétique dans toute découverte scientifique. Mais on respecte l'ordre génétique et l'ordre de finalité. L'ordre de perfection. Oui.
On a dit que l'ousia est le principe selon la forme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un principe selon la matière ?
Non. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Pas de principe propre selon la matière. Oui. Alors, on découvre que la matière est principe dans l'ordre du devenir et que la matière n'est pas principe dans l'ordre de l'être. Alors, voyez, toute philosophie qui ne dépasse pas le devenir mettra comme structure propre de sa philosophie la matière. Elle sera toujours contemporaine. C'est ce que Lénine dit. Et c'est pour ça qu'il n'accepte pas l'esprit. Parce qu'au fond, la philosophie demeure dans l'ordre du devenir. Et ce que j'ai dit d'autre part, que dans l'ordre de l'être, la découverte de la cause efficiente n'est pas non plus un principe. La cause efficiente commande le devenir, mais ne commande pas l'être. L'être est au-delà de la cause efficiente. Immédiate. Tandis que l'être est commandée directement par la fin. La seule cause qui colle à l'être, c'est la fin. C'est très beau, ça, du reste. Ça vous fait comprendre pourquoi la recherche de l'être premier ne peut se faire que par la causalité finale. Parce que l'ousia, je l'atteins par la forme. Donc ça ne colle pas directement à l'être, si j'ose dire. Ça colle directement à l'être parce que c'est un principe sous la forme de ce qui est, mais c'est par l'intermédiaire de la forme.
L'être en acte est quand même source de l'être.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous dire que l'être en acte est source de l'être ?
L'être en acte, fin. Puisqu'il n'y a pas de source de l'être efficiente. Source, mais source selon la forme, pas source tout court. Source tout court serait l'efficience. Oui. Je veux dire source sur la forme, c'est-à-dire source très particulière dans l'ordre de la détermination. Vous voyez bien ça? C'est important, ça, à bien saisir. C'est même capital, ça. Ça permet de mieux saisir ce que c'est que cette recherche de ce qui est comme être. Quand vous interrogez qu'est-ce que c'est que l'être, bien, qu'est-ce que c'est que l'être, ce qu'il y a de plus immédiat, c'est l'être en acte. Le pourquoi de l'être, l'être en acte. Bon, ça c'est bien saisi. Il faut le secouer hein, de multiples façons pour arriver à le saisir. Mais je crois que quand on le saisit, il y a une libération de l'intelligence. L'intelligence est libérée de la matière. C'est quand même important, ça. La grande libération, c'est la libération de la matière pour l'intelligence. Le nous séparer, c'est quand même quelque chose, le nous séparer. Et parce que le nous est séparé, il touche tout de suite l'être en acte. Et parce que l'être en acte, dans ses modalités, implique l'essai, on comprend très bien que le jugement d'existence, ceci est, touche l'acte. Et que ceci est, touche l'acte. Mais l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, implique cette formalisation de l'être. Et c'est pour ça qu'à partir de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je découvre en premier lieu la substance. Parce que l'être est formalisé par l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Mais, dans le jugement d'existence, l'être en acte est premier. Alors, nous allons continuer. La recherche, toujours l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, prise dans toute sa force, dire au carré, qu'est-ce que c'est que l'être ? Me conduit au pourquoi de l'être. Et le pourquoi de l'être me met tout de suite en face de l'être parfait. Vous ne saisissez le pourquoi d'une réalité que lorsque vous voyez cette réalité dans sa perfection. Seul le vivant parfait engendre. Le pourquoi d'un être s'est saisi toujours dans l'être parfait. Ne cherchez pas le pourquoi du gland dans le gland. Cherchez le pourquoi du chêne dans le chêne parfait. Ça, c'est très très important. Le pourquoi d'une réalité ne se découvre à travers cette réalité parfaite. Seule une réalité parfaite me livre son pourquoi. Tandis qu'une réalité imparfaite ne me livre jamais son pourquoi. ça que l'enfant se demande pourquoi je vis. Et vous êtes parfait pour savoir pourquoi on vit. Alors l'interrogation pourquoi l'être, pourquoi ce qui est en tant qu'être, me conduit à essayer de découvrir la perfection de l'être, sa propre fin. Et pour découvrir la propre fin de l'être, je montre tout de suite que la fin de l'être ne peut pas être en dehors de l'être. C'est sûr. Et la fin de l'être ne peut être qu'à l'intérieur de l'être. C'est pas un surêtre. L'être possède en lui-même sa propre finalité. Mais qu'est-ce que c'est que la finalité de l'être ? Bien, la finalité de l'être ne peut être que l'être qui est parfaitement lui-même. Alors qu'est-ce que c'est que l'être qui est parfaitement lui-même ? C'est l'être qui n'a plus besoin de rien d'autre que de lui. C'est l'être qui est et qui est parfaitement en acte. C'est l'être qui est au-delà de toute potentialité. C'est l'être qui est au-delà de tout devenir. C'est l'être qui est au-delà de toute forme. C'est l'être qui est parfaitement lui-même. Alors, la découverte de la finalité, de la fin de l'être, implique aussi une induction. Mais une induction d'un type très particulier. C'est une induction beaucoup plus directe que celle de la substance. Et comme un peu l'induction du bonheur comme fin de toutes mes activités. C'est une induction très directe. C'est une induction qui se fait par mode négatif. Tout ce qui est recherché pour un autre n'est pas mon bonheur. Seul ce qui est recherché pour soi est mon bonheur. C'est la découverte de la fin, du bien fin. Et ici, c'est la découverte de l'être fin, de l'être qui est à lui-même sa propre perfection. L'être qui est à lui-même ce qu'il doit être. Je crois qu'on peut saisir ça. Alors, on écarte négativement tout ce qui est en potentialité, en attente, en désir. Parce que tout ça exprime la fragilité de l'être. Tout ça exprime la mendicité de l'être, si j'ose dire. L'être mendiant. L'être mendiant n'est pas l'être. L'être qui attend un autre n'est pas l'être. C'est curieux tout ça. C'est l'être imparfait. Ça, je peux multiplier toutes ces expressions qui sont psychologiques. Le désir, l'attente, le manque, le sentiment du manque, c'est pas l'être. Le sentiment du manque peut aller très loin, puisque le sentiment du manque peut conduire à une espèce d'angoisse, de repli sur soi. Tout ça, c'est pas l'être. L'être, lui, s'impose en acte. Il finalise. Il est capable de finaliser. Il est capable d'être séparé des autres et d'être pour lui-même sa propre perfection. Ça, c'est le propre de l'être en acte. Oui, l'interrogation « Pourquoi l'être ?» m'oblige de comprendre que l'être, pour toutes les réalités limitées, est quelque chose d'au-delà. Toutes les réalités limitées sont en puissance, et parce que toutes les réalités limitées qui sont en puissance, elles ne peuvent pas être l'être en acte. Et c'est pour cela que je vais, étant donné la difficulté de cette induction, dans sa facilité. On pourrait tomber directement, mettre en acte l'être parfait. C'est l'être qui n'attend rien d'autre. C'est l'être donc qui est au-delà de toutes les potentialités. Et cet qui est au-delà de toutes les potentialités, c'est l'être en acte. C'est l'être fin. Alors, pour mieux comprendre cette induction, je prends exprès les quelques expériences que je peux avoir en moi-même d'un être qui est en attente. Celui qui est capable, qui construit, et celui qui est capable de construire. Bon, vous saisissez, si vous voulez, dans vos expériences, ces deux états. Vous pouvez multiplier ça. Vous le voyez dans l'ordre du devenir, vous le voyez dans l'ordre éthique de la finalité, vous le voyez dans l'ordre biologique, vous voyez toujours et dans l'ordre du naturé. Au fond, vous voyez, vous pourriez reprendre toutes les cinq parties de la philosophie antérieures à la métaphysique. Vous avez le facere. 1. Vous avez le point de vue de l'adjuré. 2. Vous avez le point de vue physique, philosophie, de la matière. 3. Vous avez le point de vue du vivant. 4. Et le vivant se double en deux. 4 et 5. Mais toutes les parties de la philosophie sont reprises. Et je les regarde sous ce point de vue du parfait et de l'imparfait. Puisque je cherche ce qu'est l'être parfait. Je vois que toutes ces expériences implique quelque chose de commun. Un ordre de l'imparfait vers le parfait. Donc il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun se situe selon les différents aspects de la philosophie. Les quatre grands aspects de la philosophie. Je vois donc qu'il y a quelque chose de commun, ce qui est imparfait vers le parfait. L'imparfait ne peut être parfaitement lui-même que ce qu'il atteint sa fin. Et comme c'est dans les différents niveaux, qu'un seul niveau qui les unifie, le point de vue de l'être, commandé par l'expérience sociée. Je peux donc, dans l'interrogation du pourquoi de l'être, comprendre qu'à travers toutes ces expériences, je découvre que l'être se divise en être en puissance et l'être en acte. Et que l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Oui, c'est simple comme induction. Découvrir la division de l'être en puissance vers l'être en acte à travers toutes ces expériences. À travers toutes les expériences que j'ai de la philosophie. Et je vois que là, le premier par rapport à l'autre. Que l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Une fois que j'ai cette découverte, je réfléchis sur cette division. Tout être en puissance est ordonné à l'être en acte. Et c'est presque immédiat, j'en ai presque l'expérience. J'en ai pas l'expérience, parce que ce sont deux états que je ne peux pas expérimenter en même temps. Mais que je peux relier. J'ai l'expérience de l'être en puissance, l'expérience de l'être en acte. Et je vois qu'il y a un ordre. Et toute l'analogie porte sur l'ordre. Toute l'induction porte sur l'ordre. Ce qui est en puissance, ce qui est imparfait, est ordonné à ce qui est parfait. Donc, l'être en puissance est ordonné à l'être en acte. Et si l'être en puissance est ordonné à l'être en acte est premier. Mais cependant, je dis tout de suite, dans l'ordre du devenir, c'est l'inverse. L'être en puissance est premier, génétiquement. Je passe de l'être en puissance à l'être en acte, selon l'ordre génétique. Et selon l'ordre de perfection, c'est l'inverse. Oui, c'est relativement simple, parce qu'à l'égard d'une seule expérience, je m'éveille, je dors. Vous n'avez pas l'expérience absolue que vous dormez. C'est très gênant d'avoir l'expérience de dormir, parce qu'on se trompe. C'est curieux. Vous n'avez pas l'expérience de dormir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de jugement d'existence. Et vous sortez du sommeil et vous posez un jugement d'existence. Ah, je me réveille. Mais quand on change de lieu, comme ça m'arrive assez souvent, il y a toujours une petite expérience particulière au sommeil. C'est où je suis. Et c'est là l'expérience d'être réveillé. Quand on s'habitue à dormir toujours dans le même endroit, on sait où se trouve la lampe, on sait où se trouve la... Et quand on ne sait plus, c'est extrêmement gênant. Le jugement d'existence n'est pas tout à fait en acte, on est encore. Mais l'émergence de l'acte à partir du sommeil, c'est pas une induction, et c'est pourtant une induction. L'émergence du sommeil à votre acte. J'abandonne le sommeil pour être en acte. Vous avez fait ça ce matin. J'espère. Alors vous n'y réfléchissez pas. Essayez d'y réfléchir maintenant. Vous comprendrez petit à petit ce que c'est que l'être en acte. Et vous comprendrez que pour nous, le sommeil est ordonné à être éveillé. Alors que pour Freud, c'est l'inverse. Toute la différence entre le réalisme et Freud. Pour Freud, être dormir révèle plus ce qu'on est que d'être éveillé. Pourquoi ? Parce que Freud est encore très lié à Kant. Et alors, quand je suis éveillé, tout de suite, je me dis, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me réveiller. Qu'est-ce que je dois faire ? Et je me réveille dans l'impératif catégorique. Et je n'en sors pas. c'est vrai. Faites cette expérience tous les matins. Le réveil, quand vous êtes très fatigué, que vous vous réveillez, c'est à travers l'impératif catégorique que vous vous réveillez. Vous n'êtes pas réveillé naturellement. Si on avait laissé le sommeil, vous auriez pris largement une heure de plus, ou deux heures de plus. Alors vous serez réveillé naturellement. Donc là, c'est impérativement. Oui, c'est une humanité fatiguée qui est ancienne. Humanité qui n'a pas pris tout son sommeil. Alors elle s'est réveillée dans l'impératif catégorique de Kant. Et cet impératif catégorique de Kant montre que quand je suis éveillé, je ne suis pas parfaitement moi-même. Tandis que quand je dors, je suis parfaitement moi-même. C'est bien plus naturel de dormir que d'être éveillé, selon Freud. C'est pour ça que le sommeil montre l'aspect de détente et de joie, l'aspect instinctif. Et être éveillé, c'est montre le devoir. C'est très très joli ça. Oui. C'est une humanité très fatiguée qui est freudienne. Parce qu'il faut que le sommeil soit lié au devoir. Il faut que l'acte soit lié au devoir. Alors que, normalement, est-ce qu'il est plus naturel pour vous de dormir ou d'être éveillé? Petite interrogation très simple. Selon les statistiques, il y a plus d'hommes actuellement qui considèrent que c'est plus naturel de dormir que d'être éveillé. Une humanité fatiguée. Demandez ça à un gosse, il dira tout de suite, mais non, c'est bien plus naturel d'être éveillé parce qu'on peut jouer. Tandis que quand on dort, on ne joue pas. Tandis que l'humanité qui doit aller au travail dira, c'est beaucoup plus fatigant d'être éveillé. J'aime mieux dormir. Et on opte pour le sommeil. Oui, ça c'est la philosophie de l'acte et de la puissance.